Chapitre 4. Méfie-toi, mon Fredet. Je connais ce coup-là, c'est le coup du racolage. Au fond, ces gens se sentent finis en train de moisir sur leur coupole. L'académie est un goût qui se perd, une ambition passée de mode. Son succès n'est qu'une apparence. Aussi, depuis quelques années, l'illustre compagnie n'attend plus le client chez elle. Elle descend sur le trottoir et fait la retape. Partout dans le monde, les ateliers, les libraires, les couloirs de théâtre, tous les milieux de littérature ou d'art, vous trouverez l'académicien racoleur souriant aux jeunes talents qui bourgonnent. L'académie a l'œil sur vous, jeune homme. Et si le nom est déjà venu, si l'auteur en est à son troisième ou quatrième bouquin, comme toi, alors l'invité est plus direct. Pensez à nous, mon cher, c'est le moment. Ou brutalement, dans une bourrade affectueuse. Ah, ça décidément, mais vous ne voulez pas être des nôtres? Le coup se fait aussi, mais plus insinuant, plus en douceur, avec l'homme du monde, traducteur de l'Arioste, fabricant de comédies de société. Eh, dites donc, mais savez-vous que... Et si le mondain se récrit sur son indignité, le peu de sa personne et de son bagage, le racoleur lui sort la phrase consacrée « L'académie est un salon ». Bon sang de Dieu, ce qu'elle a servi cette phrase-là, « L'académie est un salon ». Elle ne reçoit pas l'œuvre seulement, mais l'homme. En attendant, c'est le racoleur qui est reçu, choyé de tous les dîners, de toutes les fêtes. Il devient le parasite adulé des espérances qu'il fait naître et qu'il a soin de cultiver. Ici, le bon Fredet s'indigna. Jamais son maître astier ne se livrerait à des besognes aussi basses. Et Vedrino sans les épaules. Lui, mais c'est le pire de tous, le racoleur convaincu, désintéressé. Il croit à l'académie, toute sa vie est là, et quand il vous dit « si vous savez que c'est bon », avec le claquement de langue qui savoure une pêche mûre, il parle comme il pense, et son annonce est d'autant plus forte et dangereuse. Par exemple, une fois la meçon happée, bien ancrée, l'académie ne s'occupe pas de son patient, elle le laisse s'agiter, barboter. Voyons, toi, pêcheur, quand tu as pris une belle pêche, un brochet de poids et que tu te le files derrière ton bateau, comment appelles-tu ça? Noyer le poisson? Tout juste! Regarde, Moser, a-t-il bien une tête de poisson noyé? 10 ans qu'on le charrie à la remorque. Et de Salel, et Guérino, combien d'autres qui ne se déballent même plus? Mais enfin, on y entre à l'académie, on y arrive. Jamais à la remorque. Et puis quand on réussit la belle affaire, qu'est-ce que ça rapporte? De l'argent? Oh, pas tant que les foins. La notoriété? Oui, dans un coin d'église, grand comme un fond de chapeau. Encore, si ça donnait du talent, si ceux qui en ont ne le perdaient pas une fois là, glacé par l'air de la maison. L'académie est un salon, tu comprends. Il y a un ton qu'il faut prendre, des choses qui ne se disent pas ou s'atténuent. Fini les belles inventions, fini les coups d'audace à se casser les reins. Les plus grouillards ne bougent pas, de peur d'un accroc à la biver. C'est comme les petits qu'on en dimanche. Amusez-vous, mais ne vous salissez pas. Ils s'amusent, je t'en réponds. Il leur reste, je sais bien, l'adulation des popotes académiques et des belles dames qui les tiennent. Mais c'est si ennuyeux. Oh, j'en parle par expérience, m'y étant laissé quelquefois traîner. Oui, comme dit le vieux Réhu, j'ai vu ça, moi. Des pécores prétentieuses m'ont débité des phrases de revues mal digérées qui leur sortaient du bec en banderole comme au personnage de Rébus. J'ai entendu Madame Ancelin, cette bonne grosse mère, bête comme un accident, glousser d'admiration au mot de Danjou, des mots de théâtre fabriqués au couteau, aussi peu naturels que les frisons de la perruque. Freinet ne revenait pas d'Anjou, le pâtre du Latium, une perruque. Oh, seulement une demi, un breton. J'ai subi chez Madame Astier des lectures ethnographiques à tuer un hippopotame, et à la table de la duchesse, pourtant hautaine et prude, j'ai vu ce vieux ange, singe de l'Ambiroir, occupant la place d'honneur, grimacer des polissonneries qui, à tout autre qu'un immortel, aurait valu la porte avec un de ses mots à la Padovani, je te dis que ça. Le comique, c'est que la duchesse, qui l'a fait entrer à l'académie, ce lariboire, qu'il a vu humble et piteux à ses pieds, priant, geignant pour être élu. « Nommez-le, disait-elle à mon cousin l'oisillon, nommez-le pour m'en débarrasser. » Et maintenant, elle l'honore comme un dieu, l'a toujours près d'elle à sa table, remplaçant son mépris de jadis par la plus plate admiration. Ainsi le sauvage s'agenouille et tremble devant l'idole qu'il s'est taillée lui-même. Si je les connais, les salons académiques, niaiseries, cocasseries, vilaines petites intrigues. Et tu aurais te fourré là-dedans? Oh, je me demande pourquoi. Tu as la vie la plus belle du monde. Moi, qui ne tiens à rien, je t'ai presque envié quand je t'ai vu à Clos-Saint-Lange avec ta sœur. La maison idéale, à mi-côte, de haut plafond, des cheminées à entrée, dedans tout entier, des chênes, des blés, des vignes, la rivière, une existence de gentilhomme campagnard, comme on en trouve dans les romans de Tolstoï, pêche et chasse, de bons livres, un voisinage pas trop bête, des closiers pas trop voleurs. Et pour l'empêcher de l'épaissir en ce perpétuel bien-être, le sourire de ta malade, si affinée, si vivante dans son fauteuil de blessé, si heureuse lorsqu'au retour d'une course en plein air, tu lui lis quelques beaux sonnets, des vers de nature bien jaillis, écrits au crayon sur le bout de ta selle, ou le ventre dans l'herbe, comme nous voilà, moins cet horrible fracas de camions et de trompettes. Védrine fut forcée de s'interrompre. De lourds fardiers, chargés de famille, ébranlant le sol et les maisons, une éclatante sonnerie dans la caserne de dragons voisine, le rauque beuglement d'une sirène de remorqueur, un orgue, les cloches de Sainte-Clotilde, se rencontrèrent dans un de ces confusionnants tutti que forment par pousser les bruits d'une grande ville, et le contraste était saisissant de ce vacarme énorme et babylonien que l'on sentait si proche, avec le chant sauvage d'avoine et de bouchère, ombragé de haute verdure, où les deux anciens Louis le Grand fumaient et causaient cœur à cœur. C'était au coin du quai d'Orsay de la rue de Bellechasse, sur cette terrasse ruinée de l'ancienne cour des Comtes, envahie d'odorantes herbes folles, comme une carrière en plein bois quand vient le printemps. De grands massifs défleuris de lilas, des bosquets touffus de platanes et d'érables, poussés le long des balustres de pierre chargés de lierre et de clématite, faisaient un abri vert et serré, où s'abattaient des pigeons, où tournaient des abeilles, où sous un rayon de lumière blonde apparaissait le calme et beau profil de Madame Védrine, donnant le sein à sa toute petite, pendant que l'aîné chassait à coups de pierre des chats nombreux et panachés, gris, noirs, jaunes, qui sont comme les tigres de cette jungle en plein Paris. Et puisque nous parlons de tes vers, on se dit tout, n'est-ce pas? On se dit tout, mon camarade. Eh bien, ton livre que je n'ai fait qu'entr'ouvrir, n'a pas la bonne odeur de muguet, de menthe sauvage, que les autres m'apportaient. Il sent le laurier académique, ton dieu dans la nature, et je crains bien que cette fois, ta jolie note à la briseuse, toute ta grâce forestière, n'ait été sacrifiée, jetée en péage, dans la gueule de Crocodilus. Ce surnom de crocodilus que Védrine retrouvait au fond de sa mémoire écolière les amusa une minute. Il voyait Astier Véréhu dans sa chair, le front fumant, la toque en arrière, une aune de ruban rouge sur le noir de sa loche, accompagnant de son geste solennel à grande manche ses plaisanteries du répertoire. Tirez, tirez, ils ont pissé partout, ou ses déclamations rondouillardes en style de Vic d'Azyr, dont il devait plus tard occuper le fauteuil. Puis, comme Freinet, pris d'un remords de railler ainsi son vieux maître, vantait son œuvre historique, tant d'archives remuées, tirées pour la première fois de la poussière. « Mais rien du tout !» fit Védrine d'un parfait dédain. « Pour lui, les archives les plus curieuses aux mains d'un imbécile n'avaient pas plus de signification que le fameux document humain quand c'est un sot romancier qui l'utilise. La pièce d'or changée en feuille morte. » Et s'animant. « Voyons, est-ce que cela constitue un titre d'historien, ce délayage de pièces inédites en de lourds in octavo que personne ne lit, qui figure dans les bibliothèques au rayon des livres instructifs, des livres pour l'usage externe, enfin, agités avant de s'en servir. Il n'y a que la légèreté française pour prendre ces compilations au sérieux. Ce que les Allemands et les Anglais nous blaguent. Inoptissimus vi rastereu, dit Mommsen dans une de ses notes. Mais c'est même toi, gros sans cœur, qui l'a fit lire au pauvre homme cette note et en pleine classe. Oh oui, j'en ai eu du babouin et du bélitre, presque autant que le jour où, fatigué de l'entendre, nous répéter que la volonté était un cric et qu'on parvenait à tout avec ce cric, je lui jetais le bonbon en faisant savoir. Et les ailes, monsieur Astier, et les ailes ! Freinet se mit à rire, et lâchant l'historien pour l'universitaire, il essayait de défendre Astier Réhu comme professeur. Mais Védrine se montait encore. « Oh oui, parlons-en du professeur, un misérable dont l'existence s'est passée à détruire, à arracher dans des milliers d'intelligences la mauvaise herbe, c'est-à-dire l'original, le spontané. Ces germes de vie qu'un maître doit avant tout entretenir et protéger. » Et le saligo, il vous a-t-il assez gâché, raclé, épluché, sarclé? Il y en avait qui résistaient au fer et à la bêche, mais le vieux s'acharnait des outils et des ongles, arrivait à nous faire tous propres et plats comme un banc d'école. Aussi regarde-les, ceux qui ont passé dans ses mains, à part quelques révoltés comme Cher, qui dans sa haine du convenu tombe à l'excessif et à l'ignoble, comme moi qui dois à cette vieille bête mon goût du contourné, de l'exaspérer, ma sculpture en sac de noix, comme ils disent, mais tous les autres abrutis, rasés, vidés. Eh bien, et moi ? Dit Freinet dans un navrement comique. Oh, toi, la nature t'a sauvé jusqu'à présent, mais gare ! Si tu retombes sous la coupe de Crocodilus, et dire qu'il y a des écoles nationales pour nous fournir de ce genre de pédagogues, dire qu'il y a des appointements pour ça, des décorations pour ça, et même l'Institut pour ça. Couché de son long dans l'herbe folle, la tête sur son coude, balançant une fougère dont il s'abritait du soleil, Védrine proférait doucement ces choses violentes, sans qu'un muscle agitât sa large face de feu dieu indien, bouffie et blanche, où de tout petits yeux noirs, rieurs, réveillaient l'indolence et la songerie du visage. L'autre l'écoutait, effaré dans ses habitudes de vénération. « Mais enfin, mais comment t'arranges-tu pour être l'ami du fils avec cette haine pour le père ?»« Oh, pas plus de l'un que de l'autre. » « Mais il m'intéresse, ce Paul Astier, avec son aplomb de granit. de gradins, roué sa tête de jolie coquine. Je voudrais vivre assez vieux pour voir ce qu'il deviendra. Ah, monsieur de Fredet, dit alors madame Védrine, se mêlant de sa place à la conversation, si vous saviez comme il exploite mon mari. Mais toute la restauration de Mousseau, la galerie neuve sur la rivière, le pavillon de musique, la chapelle, c'est Védrine qui a tout fait, et le tombeau de Rossen. On lui paiera seulement la sculpture, quand l'idée, l'arrangement, il n'y a pas ça qui ne soit de lui. Laisse, laisse, fit l'artiste sans s'émouvoir. Pardieu, Mousseau, jamais ce gamin-là n'aurait été fichu d'en retrouver une corniche sous la couche de bêtises que les architectes y n'y déposaient depuis 30 ans. Mais le pays délicieux, la duchesse aimable et pas gênante, l'ami Fred, qu'on avait découvert à Clos-Jalange. Et puis voilà, j'ai trop d'idées, elles me gênent, me dévorent. C'est me rendre service de m'alléger de quelques-unes. Mon cerveau ressemble à l'un de ces gares de bifurcation où des locomotives chauffent sur tous les rails, dans toutes les directions. Il a compris, ça, ce jeune homme. Les inventions lui manquent. Or, il me chipe les miennes, les met au point de la clientèle, certain que je ne réclamerai jamais. Quant à être sa dupe, mais je le devine si bien lorsqu'il va me happer quelque chose. Un air blagueur, des yeux indifférents, puis tout à coup une petite grimace nerveuse du coin de la bouche. C'est fait, elle est dans le sac. À part lui, il se dit sûrement, « Mon Dieu, que Svédine régnait !» Il ne se doute pas que je le guette, que je le savoure. « Maintenant, fit le sculpteur en se levant, que je te montre mon paladin, puis nous visiterons la boîte. Elle est curieuse, tu verras. » Quittant la terrasse pour entrer dans le palais, ils franchirent un perron circulaire de quelques marches, traversèrent une salle carrée, l'ancien secrétariat du Conseil des Toits, sans parquet ni plafond, tous les étages supérieurs effondrés, laissant voir le bleu du ciel entre les énormes traverses de fer tordues par la flamme qui divisait les étages. Dans un coin, contre le mur où s'accrochaient de longs tuyaux de fonte envahis d'herbes grimpantes, une maquette en plâtre du tombeau de Rosen gisait en 3 morceaux dans les orties et les gravats. « Ben tu vois, dit Védrine, ou plus loin, non, non, tu ne peux pas voir. » Et il lui décrivait le monument. Pas commande à contenter cette petite princesse en ses caprices tumulaires. Il avait fallu des essais divers, des conceptions de sculptures égyptiennes, assyriennes, ninifes, avant d'arriver au projet de Védrine, qui ferait crier les architectes, mais ne manquerait pas de grandeur. Un tombeau militaire, une tente ouverte aux toiles relevées, laissant voir à l'intérieur, devant un autel, le sarcophage large, bas, taillé en lit de camp, où reposait le bon chevalier croisé, mort pour son roi et sa foi, et à côté de lui l'épée brisée, et à ses pieds un grand lévrier étendu. À cause de la difficulté du travail, de la dureté de ce grand nid dalmate auquel la princesse tenait expressément, Védrine avait dû prendre la masse et le ciseau, travailler sous la bâche au Père-Lachaise, comme un manœuvre. Enfin, après beaucoup de temps et de peine, le morceau était debout. Et cette jeune fripouille de Paul Astier en tirera beaucoup d'honneur, ajouta le sculpteur en souriant, sans la moindre amertume. Puis il souleva un vieux tapis, fermant sur la muraille un trou qui avait été une porte, et fit passer Fredet dans l'énorme vestibule au plafond de blanche, garni de nattes de tentures sur les ruines qui lui servaient d'atelier. L'aspect, le fouillis d'un hangar, ou plutôt d'une cour qu'on aurait recouverte, car un figuier superbe montait dans une encoignure ensoleillée, tordait ses branches aux feuilles décoratives, et tout près, la carcasse d'un calorifère éclaté simulait un vieux puits enguirlandé de lierre et de chèvrefeuilles. C'est là qu'il travaillait depuis 2 ans, été comme hiver, dans les brumes du fleuve tout proche, les bises glacées et meurtrières, sans même éternuer une fois, affirmait-il, paisible et robuste comme un de ces grands artistes de la Renaissance dont il montrait le masque large et l'imaginative fécondité. Maintenant, par exemple, il en avait de la sculpture et de l'architecture, comme s'il venait d'écrire une tragédie. Sitôt sa figure livrée, payée, ceux qu'il allait partir remonter le Nil en dabitch avec sa smala et peindre du matin au soir. Tout en parlant, il écartait un escabeau, une sellette, amenait son ami devant un énorme bloc ébauché. « Mais le voilà, mon paladin. Dis franchement, comment le trouves-tu ? » Fredet était un peu effaré et gêné par les dimensions colossales du guerrier couché, plus grand que nature, pour le proportionner à la hauteur de la tente, et exagérant dans ce buste du plâtre la musculature violente qui donne aux œuvres de Védrine, en horreur du léché, l'aspect incomplet, limoneux, préhistorique d'une belle œuvre encore dans sa gangue. Et pourtant, à mesure qu'il regardait et comprenait mieux, l'immense statue dégageait pour lui cette force irradiante et attractive qui est le beau dans l'art. « Mais superbe !» dit-il, l'accent convaincu. Et l'autre, clignant ses yeux d'un bon rire, « Pas à première vue, hein. Il faut s'y faire, hein, ma sculpture. Et j'ai bien peur que la princesse, quand elle va voir cet affreux bonhomme... » Paul Astier devait la lui ramener dans quelques jours, une fois tout raboté, poli, prêt à partir pour la fonte. Et cette visite l'inquiétait, car il connaissait le goût des femmes du monde. Il entendait au salon, les jours à 100 sous, ce jabotage en cliché qui court le long des halles et s'ébat à la sculpture. Ce qu'elle bande, ce qu'elle se force, munir de sincères que leur toilette de printemps est traînée pour ce salon qui leur donne l'occasion de les montrer. « D'ailleurs, mon gros, » continuait Védrine en entraînant son ami hors de l'escalier, « de toutes les grimaces parisiennes, de tous les mensonges de société, il n'y en a pas de plus effronté, de plus comique que l'engouement pour les choses d'art. Une momerie à crever de rire, tous pratiquent et personne ne croit. C'est comme pour la musique, oh, si tu les voyais le dimanche. » Ils enfilaient un long couloir en arcade, envahi lui aussi de cette végétation curieuse, dont les germes, apportés là des 4 coins du ciel, gonflaient, verdissaient le sol battu, jaillissaient entre les peintures des murailles crevées et noircies par la flamme. Puis ils se trouvèrent dans la cour d'honneur, autrefois câble sablé, formant aujourd'hui un champ mêlé d'avoine, de plantain, mélilot et sénesson aux 1000 hampes et tiges minuscules, au milieu duquel des planchers limitaient un potager fleuri de tournesol, où mûrissaient des fraises, des potirons, un jardinet de squatters à la lisière de quelques forêts vierges, et pour compléter l'illusion, une petite construction en briques qui attenait. « Le jardin du relieur et sa boutique !» dit Védrine, désignant au-dessus de la porte entrouverte cette enseigne en lettres d'un pied, « Albin Fage, reliure en tout genre. » Ce Fage, relieur de la Cour des comptes et du Conseil d'État, ayant obtenu de garder son logement échappé à l'incendie, était, avec la concierge, le seul locataire du palais. « Montrons chez lui un moment, » dit Védrine, « tu vas voir un bon type. » En approchant de la maison, il appela Hé, hey, père Fage! Mais le modeste atelier de Relieu était désert. L'établi, devant la fenêtre chargée de rognures, de grandes cisailles à carton, de registres verts cornés de cuivre sous une presse. La singularité de cet intérieur, c'est que le cousoir, la table en tréteau, la chaise vide devant elle, les étagères sur lesquelles s'entassaient les livres et jusqu'au miroir à barbe pendu à l'espagnolette, tout était de petite dimension, à hauteur et à portée d'un enfant de 12 ans. On aurait cru l'habitation d'un nain, d'un relieur de Lilliput. « C'est un bossu !» chuchotait Védrine à Fredet, « et un bossu à femme qui se parfume et se pommade. » Une horrible odeur de salon de coiffure, essence de rose et de lubin, se mêlait au relent de colle-forte qui prend à la gorge. Védrine appela encore une fois vers le fond où était la chambre, puis ils sortirent, Fredet s'amusant de cette idée d'un bossu loveless. « Il est peut-être en bonne fortune. »« Tu ris, eh bien, mon cher, ce bossu se paye les plus jolies femmes de Paris, s'il faut en croire les murs de sa chambre tapissés de photographies signées, dédicacées. »« Ah, ah, mon Albin! Ah, mon cher petit Fage! » !»« Et pas de souillot, hein, des filles de théâtre, la haute bicherie, il n'en amène jamais ici, mais... » De temps en temps, après une bordée de 2-3 jours, il vient tout frétillant me raconter à l'atelier, avec son hideux rictus, qui s'est offert un 1/8 superbe ou un joli petit 1/12, car c'est ainsi qu'il appelle ses conquêtes, selon le grand ou le moyen format. Et il est laid, tu dis, oh, un monstre! Sans fortune? Mon pauvre petit relieur cartonneur qui vide son travail de ses légumes, avec ça intelligent, d'une érudition, d'une mémoire, nous allons sans doute le trouver rôdant à quelque coin du palais. C'est un grand rêvassier, ce père Fage, comme tous les hommes à passion. Suis-moi, mais regarde à tes pieds, le chemin n'est pas toujours commode. Il montait un vaste escalier dont les premières marches tenaient encore, ainsi que la rampe toute rouillée, éclatée et tordue par endroits. Puis brusquement, l'on suivait un précaire pont de bois appuyé sur les travers de l'escalier, entre de hautes murailles où se devinaient des restes de grandes fresques craquelées, mangées, couleur de suie, la croupe d'un cheval à un torse nu de femme, avec des titres à peine lisibles sur des cartouches décorées. La méditation, le silence, le commerce rapproche les peuples. Au premier étage, un long corridor à voûte cintrée, comme aux arènes d'Arles ou de Nîmes, se perdait entre des murs noircis, lézardés, éclairés çà et là de larges crevasses, montrant des débris de plâtre, de fonte, d'inextricables broussailles. À l'entrée de ce couloir, la muraille portait « Corridor des huissiers ». Ils le retrouvèrent à peu près semblable à l'étage au-dessus, seulement ici, la toiture ayant cédé, ce n'était plus qu'une longue terrasse de broussailles montant aux arcades, restée debout et retombant en lianes échevelées et battantes jusqu'au niveau de la cour d'honneur. Et l'on apercevait de là-haut des toits des maisons voisines, les murs blancs de la caserne rue de Poitiers, les grands platanes de l'hôtel Padovani balançant à leur cime des nids de corneilles abandonnés et vides jusqu'à l'hiver, puis en bas la cour déserte, pleine de soleil, le petit jardin du relieur et son étroite maisonnette. « Dis donc, mon vieux, y en a-t-il, y en a-t-il ? » disait Védrine, montrant à son camarade la flore sauvage, d'une exubérance, d'une variété si extraordinaire dont le palais entier était envahi. Oh, si Crocodilus voyait ça, quelle colère! Et tout à coup, se reculant, oh, c'est trop fort, par exemple! En bas, vers la maison du relieur, venait d'apparaître Astier et Hu, reconnaissable à sa longue redingote vert serpent, à son haute forme élargie et plat. Célèbre sur la rive gauche, ce chapeau jeté en arrière sur des boucles grises, auréolant l'archange du baccalauréat, Crocodilus en personne. Il s'entretenait assez vivement avec un tout petit homme, tête nue et luisant de cosmétiques, sanglé dans un veston clair où saillait comme une coquetterie la difformité de son dos. On ne pouvait entendre leurs paroles, mais Astier semblait très animé, agitant sa canne, penchant sa taille vers la face du petit être très calme, au contraire, l'air réfléchi, ses deux grandes mains en arrière croisées sous sa bosse. « Il travaille donc pour l'Institut, cet avorton ?» demanda Freday, qui se rappelait maintenant ce nom de phage prononcé par son maître. Védrine ne répondit pas, attentif à la mimique des deux hommes dont la discussion venait de s'interrompre brusquement. Le bossu rentrant chez lui avec un geste de dire « Comme vous voudrez !» tandis qu'Astier et Hu gagnaient à grands pas furieux la sortie du palais vers la rue de Lille, puis hésitant, revenaient vers la boutique dont la porte se refermait sur lui. « C'est drôle !» murmurait le sculpteur. « Mais pourquoi Fage ne m'a-t-il jamais rien dit ?»« Quel abîme, ce petit homme !» Après tout, peut-être font-ils leur farce ensemble, la chasse à l'Indouze et à l'Inde 80. Oh, Védrine ! Freday, sa visite faite, remontait lentement le quai d'Orsay, songeant à son livre, à ses ambitions académiques, fortement secoué par les rudes vérités qu'il venait d'entendre. Comme on change peu tout de même, comme on est de bonheur ce qu'on sera. À 25 ans de distance, sous les rides, les poils gris, tous les postiches dont l'existence affuble les hommes, les deux copains, Louis le Grand, se retrouvaient identiques à ce qu'ils étaient sur leur banc de classe. L'un violent, exalté, toujours en révolte, l'autre docile, hiérarchique, avec un fond d'indolence qui s'était développé au calme des champs. Après tout, Védrine avait peut-être raison, même avec l'assurance de réussir. Cela valait-il de tant s'agiter? Surtout, il s'effrayait pour sa sœur, la pauvre infirme, toute seule à Clos-Jallanges pendant qu'il ferait ses démarches et visites de candidat. Rien que pour quelques jours d'absence, elle s'alarmait, s'attristait. Elle lui avait écrit le matin une lettre navrante. À ce moment, il passait devant la caserne des dragons et fut distrait par l'aspect des faméliques attendant de l'autre côté de la chaussée qu'on leur distribue des restes de soupe. Venus longtemps d'avance, de peur de perdre leur tour, assis sur les bancs ou debout, alignés contre le parapet du quai, terreux, sordides, avec des cheveux, des barbes d'hommes-chiens, des logs de naufragés, ils restaient là, sans bouger, sans se parler, en troupeau, guettant jusqu'au fond de la grande cour militaire l'arrivée des gamelles et le signe de l'adjudant qui leur en permettait l'approche. Et c'était terrible, dans la splendeur du jour, cette rangée silencieuse d'yeux de fauves, de mufles affamés tendus avec la même expression animale vers ce portail large ouvert. « Et que faites-vous donc là, mon cher enfant ?» Astier et Hu, radieux, avait passé son bras sous celui de son élève. Il suivit le geste du poète, lui montrant sur le trottoir en face ce navrant tableau parisien. « En effet, oui, en effet. » Mais ses gros yeux de pédagogue ne savaient rien voir que dans les livres. Sans notion directe ni émue des choses de la vie. Même à sa façon d'enlever Freday et de lui dire en l'entraînant Accompagnez-moi donc jusqu'à l'institut. » On sentait que le maître désapprouvait ces musarderies de la rue, voulait qu'on fût plus sérieux que cela. Et, doucement appuyé au bras du disciple préféré, il lui contait sa joie, son ravissement, la miraculeuse trouvaille qu'il venait de faire, une lettre de la grande Catherine à Diderot sur l'Académie, et cela juste à l'approche de son compliment au grand-duc. Il comptait la lire en séance, cette merveille des merveilles, peut-être même offrir à son Altesse, au nom de la compagnie, l'autographe de son aïeul. Oh, le baron Huchelard en crèverait de mal envie. À propos, vous savez, mes Charles Quint, calomnie, pure calomnie. Oh, j'ai là de quoi le confondre, ce Zoïl. Mais de sa grosse main courte, il frappait sur le Marocain d'une lourde serviette, et dans l'expansion de sa joie, voulant que Fredet fût heureux aussi, il le ramenait à leur conversation de la veille, à sa candidature au premier fauteuil vacant. Ce serait si charmant, le maître et l'élève assis tous les deux côte à côte sous la coupole. Et vous verrez que c'est beau, comme on est bien, on peut se le figurer avant d'y être. À l'entendre, il semblait qu'une fois là, ce fut fini des tristesses, des misères de la vie. Elle battait le seuil sans entrer. On planait très haut, dans la paix, dans la lumière, au-dessus de l'envie, de la critique, consacrée. Tout, on avait tout, on ne désirait plus rien. Ah, l'Académie, l'Académie. Ce détracteur en parlait sans la connaître, ou par rage jalouse de n'y pouvoir entrer, et les babouins. Sa forte voix sonnait, faisait retourner le monde tout le long du quai. Quelques-uns le reconnaissaient, prononçaient le nom d'Astiréu. Et sur le pas de leur boutique, les libraires, les marchands de curiosités et d'estampes, habitués à le voir passer à des heures régulières, saluaient d'un respectueux mouvement de retraite. « Frédéric, regardez ça !» Et le maître lui montrait le palais Mazarin devant lequel ils arrivaient. « Le voilà, mon institut ! Le voilà comme il m'apparaissait de mon plus jeune âge, en écusson sur la couverture des Didots. Dès lors, je m'étais dit, j'y entrerai, et j'y suis entré. Et à votre tour de vouloir, cher enfant, à bientôt !» Il franchit d'un pas alerte le portail à gauche du corps principal, s'élança dans une suite de grandes cours pavées et majestueuses, pleines de silence où son ombre s'allongeait. Il avait disparu que Frédéric regardait encore, repris, immobile, et sur sa bonne figure hâlée et pleine, dans ses yeux globuleux et doux, il y avait la même expression qu'au mufle d'homme chien là-bas, devant la caserne, attendant la soupe. Désormais, en regardant l'institut, sa figure prendrait toujours cette expression-là. Chapitre 5. Ce soir, dîner de gala, puis réception intime à l'hôtel Padovani. Le grand-duc Léopold reçoit à la table de sa parfaite amie, comme il appelle la duchesse, quelques membres triés des différentes sections de l'institut et rend ainsi aux cinq académies la politesse de leur accueil et le coulant sensoir de leur directeur. Comme toujours chez l'ancienne ambassadrice, le monde diplomatique est avantageusement représenté, mais l'institut prime tout et la place même des convives précise l'intention du dîner. Le grand-duc, assis en face de la maîtresse de maison, a Madame d'Astier à sa droite, à sa gauche la comtesse de Fodder, femme du premier secrétaire de l'ambassade finlandaise, faisant fonction d'ambassadeur. La droite de la duchesse est occupée par Léonard Astier, la gauche par Monseigneur Adriani, nonce du pape, puis suivent et s'alternent le baron Huchelard pour les inscriptions et belles lettres, Mourad Bey, ambassadeur de Turquie, le chimiste Delpech de l'Académie des sciences, le ministre de Belgique, le musicien Landry de l'Académie des beaux-arts, d'Anjou, l'auteur dramatique, un des cabotins de Picheral, enfin le prince d'Athis, qui par son double titre de ministre plénipotentiaire et de membre de l'Académie des sciences morales et politiques, donne bien la note à deux teintes du salon. En bout de table, le général, aide-de-camp de son Altesse, le jeune garde-noble comte Adriani, neveu du nonce, et Lavaux, l'indispensable, l'homme de toutes les fêtes. Le féminin manque d'agrément. Rousse et vive, toute menue, engoncée de dentelle jusqu'au bout de son petit nez pointu, la comtesse de Fodder a l'air d'un écureuil enrhumé. La baronne Houchenard, moustachue, sans âge, donne l'impression d'un vieux monsieur décolleté, très gras. Madame Astier, en robe de velours demi-ouverte, un cadeau de la duchesse, sacrifie à sa chère Antonia la joie qu'elle aurait à montrer ses bras, ses épaules, ce qui lui reste, et grâce à cette attention, la duchesse Padovani semble à table la seule femme. Grande, blanche, dans sa robe de chez chose, une toute petite tête aux beaux yeux dorés, orgueilleuse et mobile, des yeux de bonté, de tendresse et de colère, sous de longs cils noirs presque rejoints, le nez court, la bouche voluptueuse et violente, et l'éclat d'un teint de jeunesse, d'un teint de femme de 30 ans, qu'elle doit à l'habitude de passer l'après-midi au lit quand elle reçoit le soir ou va dans le monde. Ayant vécu longtemps dehors, ambassadrice à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Constantinople, autorisée à donner le ton de la mode française, elle a gardé quelque chose de doctoral, d'informé, que les Parisiennes lui reprochent, car elle leur parle en se penchant comme à des étrangères, leur explique tout ce qu'elles savent aussi bien qu'elles-mêmes. La duchesse continue à représenter Paris chez les Kurdes, dans son salon de la rue de Poitiers, et c'est le seul début, faux défaut, de cette noble et rayonnante personne. Malgré la presque absence de femmes, de ces claires toilettes découvrant les bras et les épaules, qui alternent si bien dans la monotonie des habits noirs, miroitantes de brillants et de fleurs, la table a pour s'égayer la soutane violette du nonce à large ceinture de moire, la chéchia pourpre de Mourad Bey, la tunique rouge du garde noble au collet d'or, à brosserie bleue et galon d'or sur la poitrine où lui, en plus, l'énorme croix de la Légion d'honneur que le jeune Italien a reçu le matin même, l'Élysée ayant cru devoir récompenser l'heureuse mission du porteur de barrette. Puis partout, les taches vertes, bleues, rouges, des cordons, l'argent mat, les feux en étoiles, des brochettes et des plaques. 10 heures. Le dîner touche à sa fin, sans une fleur froissée aux bordures odorantes des surtouts et des couverts, sans une parole plus haute, un geste plus animé. Pourtant la chair est exquise à l'hôtel Padovani, une des rares tables de Paris où il y a encore du vin. On sent quelqu'un de gourmand dans la maison et non pas la duchesse, vraie mondaine française, trouvant toujours le dîner bon quand elle a une robe saillante à sa beauté, quand le service est paré, fleuri, décoratif. Mais l'attentive de madame, le prince d'Athis, palais raffiné, estomac fini, rongé par les cuisines de cercle et qui ne se nourrit pas exclusivement de vaisselle plate ni de la vue délivrée des galas à mollets blancs irréprochables. C'est pour lui que le soin des menus compte parmi les préoccupations de la belle Antonia. Pour lui, les nourritures montées et l'ardeur des grands vins de côte qui, ce soir, franchement, n'ont guère allumé la table. Même torpeur, même réserve gourmée au dessert qu'au hors-d'œuvre. À peine une rougeur aux joues et au nez des femmes. Un dîner de poupées de cire, officiel, majestueux. de ce majestueux qui s'obtient surtout avec de l'espace dans le décor, des hauteurs de plafond, des sièges très écartés, supprimant l'intimité du coude à coude. Un froid noir, profond, un froid de puits, passe entre les couverts, malgré la tiède nuit de juin, dont le souffle venu des jardins par les persiennes entrecloses gonfle doucement les stores de soie. On se parle de haut, de loin, du bout des lèvres, le sourire immobile et figé. Et des choses qui se disent, pas une qui ne soit un mensonge et ne retombe sur la nappe banale et convenue parmi les facticités du dessert. Les phrases restent masquées contre les visages. Et c'est heureux, car si chacun se découvrait à cette minute, laissait voir sa pensée du fond, quel désarroi dans l'illustre société. Le grand-duc, large face, blafarde, entre des favoris trop noirs taillés en boulingrin, tête de souverain pour journaux illustrés, tandis qu'il interroge avidement le baron Huchelard sur son récent ouvrage, songe en lui-même « Bon Dieu, que ce savant m'ennuie avec ses huttes en forme d'arbre. Ah, comme on serait mieux au ballet des Roxlane ou dans cette petite Déa que j'adore. L'auteur de Roxlane est ici, me dit-on, mais c'est un vieux monsieur très vilain, très triste. Oh, les jambes, le tutu de ma petite Déa. Le nonce, grand nez, lèvres minces, spirituelle figure romaine aux yeux noirs, dans un teint de bile, écoute aussi, penché de côté, l'historique de l'habitation humaine, et songe, en regardant ses ongles luisants comme des coquillages, « Bon, j'ai mangé ce matin à l'Annonciature un délicieux misto fritto qui m'est resté sur l'estomac. Gugliacino a trop serré ma ceinture. Oh, je voudrais bien être sorti de table. » L'ambassadeur de Turquie, lipule, jaune, abruti, son fez jusqu'aux yeux, la nuque en avant, verse à boire à la baronne Huchelard et se dit « Ces roumis sont abominables d'amener leurs femmes dans le monde à cet état de décomposition. Le pâle, plutôt le pâle, que de laisser croire que cette grosse dame n'est jamais couchée avec moi. » Et, sous le sourire minaudier de la baronne remerciant son excellence, il y a « Ce Turc est ignoble, il me dégoûte !» Ce que dit tout haut Madame Astier n'a pas non plus de rapport avec sa préoccupation intime. « Pourvu que Paul n'ait pas oublié d'aller chercher son papa, l'effet sera joli de l'aïeul appuyé à l'épaule de son arrière-petit-fils. » Oh, si nous pouvions décrocher quelques commandes à son Altesse. » Puis, regardant tendrement la Duchesse, « Oh, elle est en beauté, ce soir. De bonnes nouvelles, sans doute, pour son ambassade. Jouis de ton reste, ma fille. Sa vie sera mariée dans un mois. » Madame Astier ne s'est pas trompée. Le grand-duc, en arrivant, annonçait à sa parfaite amie la promesse de l'Élysée pour Datis, l'offre de quelques jours. La duchesse est folle d'une joie contenue qui l'illumine en dessous, la part d'un éclat extraordinaire. Voilà ce qu'elle a fait de l'homme aimé, où elle l'a conduit. Et déjà, elle projette son installation personnelle à Pétersbourg, un hôtel sur la perspective, pas trop loin de l'ambassade, pendant que le prince blême la joue fripée, le regard perdu, ce regard dont Bismarck n'a jamais supporté le scrutement, comprimant sur sa lèvre méprisante le double sourire sibyllin et dogmatique de la carrière et de l'académie, songe en lui-même « Bon, il faut que maintenant, que Colette se décide. Elle viendrait là-bas, on se marierait sans bruit à la chapelle des pages. » Tout serait fini et irréparable quand la duchesse la prendrait. Et d'un convive à l'autre, mille pensées incongrues, bouffonnes, disparates, circulant ainsi sous la même enveloppe gommée. C'est la satisfaction béate de Léonard Astier, qui a reçu le matin même l'ordre de Stanislas, deuxième classe, en retour de l'hommage fait à son Altesse d'un exemplaire de son discours portant, épinglé en première page, l'autographe de la grande Catherine, très ingénieusement enchâssée dans le compliment de bienvenue. Cette lettre, qui a eu les honneurs de la séance, occupe les journaux depuis 2 jours, retentit par toute l'Europe, répercutant le nom d'Astier, de sa collection, de son œuvre, dans un de ces assourdissants et disproportionnés échos de montagne que la multiplicité de la presse vaut à tous les événements contemporains. Maintenant, le baron Huchenard peut essayer de ronger, de mordre et marmotter avec son ton doucereux. « J'appelle votre attention, mon cher collègue. » On ne l'écoutera plus. Et comme il sent bien cela, le prince des autographiles, quel regard enragé il tourne vers le cher collègue entre 2 phrases de son boniment scientifique. Que de venin dans tous les creux de sa longue figure en biseau, poreuse comme une pierre ponce. Le beau d'Anjou rage lui aussi, mais pour un autre motif que le baron. La duchesse n'a pas invité sa femme. Cette exclusion le blesse dans son amour-propre de mari. Ce second, fois plus douloureux que l'autre, et, malgré son désir de briller pour le grand-duc, la provision de mots qu'il avait apportée, presque inédit, lui reste dans la gorge. Un autre encore qui sourit de travers, c'est le chimiste Delpech que l'Altesse, au moment des présentations, a félicité de ses travaux sur les caractères cunéiformes, le confondant avec son collègue de l'Académie des inscriptions. Il faut dire qu'en dehors de d'Anjou, dont les comédies sont populaires à l'étranger, le grand-duc n'a jamais entendu parler des célébrités académiques présentes à ce dîner. Lavaux, le matin même, a fabriqué, avec l'aide de Caen, une série de petits menus portant le nom de chaque invité et la nomenclature de ses principaux ouvrages. Que son Altesse ne se soit pas plus embrouillé dans la série des compliments, voilà qui prouve un fier à propos et une mémoire princière. Mais la soirée n'est pas finie, d'autres gloires académiques vont apparaître. Déjà, de sourds roulements de voitures, des claquements de portières jetées retentissent sous le porche. Monseigneur pourra se rattraper. En attendant, d'une voix molle, lente, cherchant ses mots dont la moitié lui passe par le nez et s'y égare, Son Altesse discute un point d'histoire avec Astier et Hue à propos de la lettre de Catherine II. Depuis longtemps, les aiguères à main ont fait le tour de la nappe. Personne ne boit ni ne mange plus. On ne respire plus même, de peur d'interrompre la conférence, toute la table hypnotisée, soulevée, et par un curieux phénomène de lévitation, littéralement pendue aux lèvres impériales. Tout à coup, l'auguste nazi immense s'arrête et Léon Dartier, qui résistait pour la forme, pour rendre plus éclatant le triomphe de son adversaire, jette ses bras comme des armes brisées, disant d'un air convaincu « Oh, monseigneur, vous m'avez fait quino !» Le charme est rompu, la table sur ses pieds, on se lève dans un léger brouhaha d'admiration, des portes battent, la duchesse a pris le bras du grand-duc, Mourad Bey celui de la baronne, et tandis qu'avec un frôlement de jupe, de chaises reculées, l'assistance s'égrène à la file, passe dans les salons, Firmin, le maître d'hôtel, grave, le menton haut, suppute à part lui, « Ce dîner partout ailleurs m'aurait valu 1000 francs de gratte, mais avec elle va-t-on voir, pas même 300 francs. » Puis tout haut, comme un crachat sur la traîne de la fière duchesse, « Carne va !»« Que votre Altesse me permette, mon grand-père, M. Jean Réhu, doyen de 5 académies, Le timbre suraigu de Madame Astier sonne dans les grands salons allumés, presque déserts, où sont arrivés déjà les intimes admis à la soirée. Elle crie très fort pour que bon papa comprenne à qui il est présenté et réponde en conséquence. Il a fier bide, le vieux Réhu, dressant sa longue taille, portant droite encore sa petite tête créole, devenue noire avec l'âge et toute gercée. Appuyé au bras de Paul Astier, élégante et charmant, sa fille de l'autre côté, Astier Réhu, derrière eux, la famille, ainsi groupée, présente une scène sentimentale à la Greuze, qu'on se figurait volontiers sur une de ces hautes lisses claires qui tendent les murs du salon et dont l'extraordinaire vieillard est presque contemporain. Le grand-duc, très touché, cherche une parole heureuse. Mais l'auteur des lettres à Uranie ne figure pas sur ses menus. Il s'en tire par quelques phrases vagues auxquelles le vieux Réhu, croyant qu'on l'interroge sur son âge comme d'habitude, répond « 98 ans dans 15 jours, Altesse !» Puis il ajoute, ce qui ne rime pas davantage aux félicitations encourageantes du grand-duc, « Non, pas depuis 1803, monseigneur, la vie doit être bien changée. » Et pendant que s'échange ce singulier dialogue, Paul chuchote à sa mère, oh, « Tu le reconduiras si tu veux, moi je m'en charge plus. » Il est d'une humeur de loup. En voiture, tout le temps, il m'envoyait des coups de pied dans les jambes pour détirer ses nerfs, disait-il. Lui-même, le jeune Paul, a la voix cruellement nerveuse et cassante ce soir. Quelque chose de serré, de contracturé sur sa figure douce, que sa mère connaît bien, qu'elle a vue tout de suite quand elle est entrée. Qu'y a-t-il encore ? Elle le surveille, essaye de lire dans ses yeux clairs qui se dérobent impénétrables, seulement plus aigus, plus durs. Et le froid du dîner, le froid solennel continue, circule parmi les invités qui se groupent çà et là, les quelques femmes en cercle sur des sièges bas, les hommes debout, arrêtés ou marchant, mimant des conversations profondes avec la visible préoccupation d'attirer les regards de son Altesse. C'est pour elle que le musicien Landry rêve au coin de la cheminée, levant son front génial et sa barbe d'apôtre, et qu'à l'autre angle d'Elpech, le savant médite, le menton dans le main, anxieux, penché, des frosses aux sourcils, comme s'il surveillait un mélange d'étonnant. Le philosophe Lariboire, fameux par sa ressemblance avec Pascal, rôde aussi, passe et repasse devant le canapé où Monseigneur est en proie à Jean Réhu. On a oublié de le présenter, et piteux, son grand nez s'allonge, quête à distance, semble dire « Mais voyez donc si ce n'est pas le nez de Pascal !» Et vers le même canapé, Madame Evisa filtre entre ses paupières à peine décloses un regard qui promet tout, quand Monseigneur voudra, et où, comme il voudra, pourvu que Monseigneur vienne chez elle, qu'on le voie à son prochain lundi. Ha ha, le décor a beau changer, la pièce sera toujours la même. Vanité, bassesse, aptitude aux courbettes, courtisanesque besoin de s'avilir, de s'aplatir. Il peut nous en venir des visites impériales. Nous avons à l'ancien garde-meuble tout ce qu'il faut pour les recevoir. Général, votre Altesse, oh, je n'arriverai jamais pour le ballet. Mais pourquoi restons-nous là, monseigneur? Bon, je ne sais quoi, une surprise, on attend que le nom soit parti. Il murmure ces quelques mots du bout des lèvres, sans se regarder, sans qu'un muscle anime leurs faces officielles. L'aide de camp, assis près de son maître, dont il imite naziment, le geste rare et la posture immobile au bord du divan, le bras arrondi sur la hanche, raide comme à la parade, ou sur le devant de la loge impériale au théâtre Michel. Debout devant eux, le vieux Réhu ne veut pas s'asseoir, ni cesser de parler, de remuer ses poudreux souvenirs de centenaires. Il a tant connu de gens, s'est habillé de tant de modes différentes, et plus c'est loin, mieux il se rappelle. J'ai vu ça, moi. Il s'arrête une minute à la fin de chaque anecdote, les yeux au lointain, vers le passé fuyant, puis repart sur une autre histoire. Il était chez Talma, à Brunois, ou dans le boudoir de Joséphine, plein de boîtes à musique, de colibris en brillant, gazouillant et battant des ailes. Le voici qui déjeune avec Madame Tallien, rue de Babylone. Il l'a dépeint nu jusqu'au flanc, ses beaux flancs galbes de lyre, un long pagne de cachemire battant ses jambes à cothurne, les épaules recouvertes par les cheveux frisés et tombants. Il a vu cela, lui, toute cette chair d'Espagnol, grassouillette et pâle, nourrie de blanc mangé, et ce souvenir fait grésiller ses petits yeux sans cils au fond de leurs orbites. Dehors, sur la terrasse, dans la nuit tiède du jardin, on cause à mi-voix, des rires étouffés traversent l'ombre où les cigares font un cercle de points rouges. C'est Lavaux qui s'amuse à demander aux jeunes gardes nobles pour d'Anjou et Paul Astier l'histoire de la barrette et du Zucchello. Monsignor, il me dit, Popino, et la dame compte, la dame de la gare. Cristo, qu'elle était belle, fit l'Italien d'une voix sourde. Et tout de suite, pour corriger ce qu'il y a de trop goulu dans son aveu, il ajoute doucereusement, Sympathica, surtout, sympathica. Belles et sympathiques, toutes les Parisiennes lui semblent ainsi. Ah, s'il n'était pas obligé de reprendre son service. Et mis en verbe par les vins de France, il raconte sa vie au garde-robe, les bonnies du métier, l'espoir qu'ils ont tous en entrant là de faire un beau mariage, de conquérir un jour l'audience pontificale, quelques riches anglaises catholiques, ou la fanatique espagnole venue de l'Amérique du Sud pour apporter son offrande au Vatican. L'uniforme zouli, comprenez. Et puis les infortunes del père, cela vous donne à nous autres, ces soldats, ou un prestigio romanesque, chevaleresque, quelque chose qui me l'aide aux dames généralement. C'est vrai qu'avec sa jeune tête virile, ses broderies d'or doucement brillantes sous la lune, son collant de peau blanche, il rappelle les héros de l'Arioste ou du Tasse. « Eh bien, mon cher Pépino, dit le gros Lavaux de son ton raillard et mauvais chien, la belle affaire que vous cherchez, vous l'avez tout près d'ici, sous la main. »« Comme est sous la main ?» Paul Astier tressaille et tend l'oreille. Dès qu'on parle d'un riche mariage, il croit qu'on veut lui souffler le sien. « Ben la duchesse, parbleu !» Le vieux Padovani est à sa dernière attaque. « Mais les présidentis, jamais il ne l'épousera. » On peut croire Lavaux, qui est l'ami du prince, de la duchesse aussi du reste, mais qui, dans la très prochaine craquure du ménage, s'est mis du côté qu'il suppose le plus solide. « Allez-y donc carrément, mon cher comte. Il y en a de l'argent, beaucoup d'argent, des relations, puis la femme pas trop décatie. « Cristo, qu'elle est belle, là !» soupire l'autre. Et d'Anjou ricane. « Oh, sympathique, surtout !» Et le garde noble, après un court étonnement, ravi de se rencontrer avec un académicien de tant d'esprit. « Si, si, sympathica, precisamente, je ne l'ai pas sait. » Et puis il reprend la voix. Si vous aimez les eaux de teinture, postiche, bandage, sous-ventrière, vous serez servi. On a dit bardé, ceinturé de cuir et de fer en dessous, la meilleure cliente de charrière. Et il parle tout haut, sans aucune gêne, en face de la salle à manger, dont la porte-fenêtre entr'ouverte éclaire sa large face rubiconde et cynique d'affranchi. de parasites, et souffle encore une haleine chaude de truffes, de salmi, enfin, tout le somptueux dîner qu'il vient de faire et qu'il éructe en basse et ignoble calomnie. Tiens, les voilà, les truffes farcies, les voilà tes gélinottes et tes châteaux à 20 francs le verre. Et ils se sont mis à deux, d'Anjou et lui, pour cette partie de débinage très reçue dans la société. Et ils en savent, et ils en racontent. Lavaux lance l'ordure, d'Anjou la repaume, et l'ingénu garde noble, sachant au juste ce qu'il faut croire, essayant de rire, le cœur étreint à l'idée que la duchesse pourrait les surprendre, éprouve un vrai soulagement en entendant ton oncle qui l'appelle à l'autre bout de la terrasse. « Oh, Pépino !» Le nonciature se couche de bonheur et lui fait expier en sagesse les mésaventures de la barrette. « Bonne nuit, messieurs. Bonne chance, jeune homme. » Le nonce est parti. Vite la surprise. Sur un signe de la duchesse, l'auteur de Roxelane se met au piano, traîne sa barbe sur les touches en plaquant deux moelleux accords. Aussitôt, là-bas, tout au fond, les hautes portières s'écartent et dans l'enfilade des salons étincelants s'avance au petit trot, sur la pointe de ses souliers dorés, une délicieuse brunette en maillot de danse et jupe ballonnée, menée au bout des doigts par un sombre personnage aux cheveux roulés, à la face macabre coupée d'une longue moustache en bois noirci. Déa, Déa, la folie du jour, le jouet à la mode, et avec elle son professeur Valère, chef de la danse à l'opéra. On a commencé ce soir par Roxelane, et toute chaude encore du triomphe de sa sarabande, la petite vient là danser une seconde fois pour l'hôte impérial de la duchesse. De surprise plus agréable, la parfaite habile aurait su vraiment en imaginer. Avoir là, devant soi, pour soi, presque dans la figure, ce joli tourbillon de tulle, ce souffle haletant, jeune et frais, entendre tous les nerfs tendus du petit être craquer et vibrer comme les écoutes d'une voile, quelle délice! Et Monseigneur n'est pas seul à les savourer. Dès la première pirouette, les hommes se sont rapprochés, formant un cercle brutal et serré d'habits noirs en dehors duquel les rares femmes présentes en sont réduites à regarder de loin. Le grand-duc est confondu, bousculé dans cette presse, car à mesure que se précipite la sarabande, le cercle se rétrécit jusqu'à gêner l'évolution de la danse et penché, soufflant très fort, académiciens et diplomates, la nuque avancée, leurs cordons, leurs grands croix ballant comme des sonnailles, montrent des rictus de plaisir qui ouvrent jusqu'au fond des lèvres humides, des bouches démeublées, laissent entendre de petits rires semblables à des hennissements. Même le prince d'Athis humanise la courbe méprisante de son profil devant ce miracle de jeunesse et de grâce dansante qui, du bout de ses pointes, décroche tous les masques mondains. Et le Turc Mourad Bey, qui n'a pas dit un mot de la soirée, affalé sur un fauteuil, maintenant gesticule au premier rang, gonfle ses narines, désorbite ses yeux, pousse les cris gutturaux d'un obscène et démesuré Caragousse. Et dans ce frémissement de viva, de bravo, la fillette volte, bondit, dissimule si harmonieusement le travail musculaire de tout son corps que sa danse paraît très facile, la distraction d'une libellule, sans les quelques points de sueur sur la chair gracile et pleine du décolletage, et le sourire en coin des lèvres aiguisées, volontaires, presque méchants, où se trahit l'effort, la fatigue du ravissant petit animal. Paul Astier, qui n'aime pas la danse, est resté à fumer sur la terrasse. Les applaudissements lui arrivent lointains avec les grêles accords du piano, accompagnement d'une songerie profonde où il voit clair, peu à peu en lui-même, comme il aperçoit, ses yeux se faisant à l'ombre, les grands fûts des arbres de jardin, leur feuillage frémissant, le treillage fin et serré d'une façade dans le goût ancien appuyé au mur du fond en perspective. C'est dur d'arriver. Il en faut du souffle pour attendre ce qu'on vise, ce but que l'on croit toucher, toujours reculer, toujours plus haut. Cette Colette, mais à chaque instant, il semble qu'elle va lui tomber dans les bras. Puis quand il revient, c'est à recommencer, une conquête à refaire. On dirait qu'en son absence, quelqu'un s'amuse à détruire son ouvrage. Qui ? Ben le mort, pardi, ce sale mort. Il faudrait être là du matin au soir, près d'elle. Mais comment faire avec la vie, les corvées, tant de courses pour l'argent ? Un pas léger, un frôlement épais de velours, c'est sa mère qui le cherche et s'inquiète. Pourquoi ne vient-il pas au salon avec tout le monde ? Elle s'accoude aux balustres près de lui, veut savoir ce qui le préoccupe. Rien, rien. Puis, pressée, questionnée. Eh bien, oui, il a qu'il en a assez de cette vie de crevage de faim. Toujours des billets, des protèges. Boucher un trou pour en ouvrir un autre. Il est à bout, il n'en peut plus, là. Du salon viennent de grands cris, des rires fous, et la voix blanche de Valère, le chef de la danse, faisant mimer à Déa la charge d'un ballet vieux style. Un battement, deux battements, l'amour méditant un larcin. Mais qu'est-ce qu'il te faut ? Chuchote la mère toute tremblante. Jamais elle ne l'a vu ainsi. Non, non, inutile, tu ne pourrais pas, c'est trop lourd. Elle insiste, mais combien ? 20 000. Et chez l'huissier, demain, avant 5 heures. Sans quoi, la saisie, la vente, un tas de malpropretés. Non, plutôt que d'avoir la honte, il mâchonne rageusement son cigare et ses mots. Oh, mieux me faire sauter le caisson. Ah, oh, il n'en faut pas plus. Tais-toi, tais-toi, demain, avant 5 heures. Et des mains passionnées, furieuses, se jettent à ses lèvres pour en arracher, pour y renfoncer l'horrible parole de mort.